Nous sommes le soir du 11 février 2024. Dans le stade des Bimpe, au nord d'Abidjan, les esprits s'échauffent dans les derniers instants de la finale de la CAN opposant le Nigeria à la Côte d'Ivoire, pays hôte de la compétition. Après un but à la 81e de l'attaquant Sébastien Haller, l'objectif des éléphants pour ces 10 dernières minutes est simple, conserver l'avantage. Il est bientôt 23h et l'arbitre Dan Beida siffle le coup final. Ils l'ont fait. Après avoir frôlé l'élimination en début de tournoi, les Ivoiriens sont pour la troisième fois de leur histoire champions d'Afrique. Mais pour Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, la CAN n'est pas qu'une question de sport. À moins de 2 ans de l'élection présidentielle, la CAN est pour le chef de l'État la vitrine de la puissance ivoirienne aux yeux du continent et du monde entier. Depuis son arrivée au pouvoir en 2011, Alassane Ouattara n'a qu'un objectif en tête, relever la Côte d'Ivoire après une décennie marquée par les guerres civiles et la division. Objectif qu'il semble avoir atteint car la Côte d'Ivoire est le pays ayant le plus augmenté sa prospérité entre 2011 et 2021 selon le Prosperity Index. Mieux encore, Ouattara souhaite faire de son pays un leader en Afrique de l'Ouest et c'est ce à quoi aspire la Côte d'Ivoire depuis qu'elle a accepté d'organiser l'édition 2023 de la Coupe d'Afrique des Nations. Car en effet, une CAN, c'est la possibilité pour un pays de montrer de quoi il est capable. Et pour l'occasion, l'État a mis la main au portefeuille car on estime à environ 1,5 milliard d'euros le coût total de la plus grande CAN de l'histoire, d'après les mots des Ivoiriens eux-mêmes. Aujourd'hui, retour sur cette CAN de l'hospitalité. On parlera de foot et de politique. Bienvenue dans la Palabre. À quoi pense-t-on lorsque l'on pense à la Côte d'Ivoire ? Pour la plupart des gens, en France, ce que l'on connaît du pays, c'est Magic System ou plus récemment le coup du marteau. Pourtant, la Côte d'Ivoire occupe une place de premier rang en Afrique de l'Ouest. On en parle justement avec Florence Richard, journaliste chez Jeune Afrique, spécialisée sur le pays.
Alors, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui occupe une place assez importante. On la qualifie souvent de locomotive d'Afrique de l'Ouest. Pourquoi ? Parce que c'est un pays qui est institutionnellement assez stable, même stable, surtout si on le compare en ce moment à ce qui se passe chez ses voisins du Sahel, donc au Niger, au Burkina ou au Mali, ou en ce moment au Sénégal. Donc c'est un pays qui est institutionnellement relativement stable et c'est par ailleurs un pays qui économiquement se porte bien, qui a un taux de croissance qui peut faire envie les autres. Donc on est autour des 6-7% de croissance avec des bonnes perspectives. Le président Alassane Ouattara est un président donc qui a 82 ans, qui est un des doyens, disons, de la région. Qui parle avec tout le monde, donc politiquement, économiquement et d'un point de vue stabilité, c'est un pays qui a une place importante en Afrique de l'Ouest.
Pour cette édition, la Côte d'Ivoire a vu les choses en grand. Sur le 1,5 milliard qu'a coûté la compétition, 760 millions ont été accordés à la rénovation de 2 stades et la construction de 4 nouveaux éparpillés dans 5 villes à travers le pays. À cela s'ajoute la rénovation et la construction d'infrastructures sportives, d'hôpitaux, d'hôtels et surtout de routes. Quitte à avoir de nouveaux stades, il faut bien pouvoir s'y rendre. À Abidjan par exemple, on compte la rocade Y4, une voie de contournement du centre abidjanais de plus de 26 km, estimée à un coût total de 130 millions d'euros. Bitumée à temps pour l'événement, la signalisation et les lumières devront attendre la fin de la compétition pour être installées. Ce genre de petit couac interroge. La CAN était initialement prévue pour l'été 2023, mais a été décalée par peur que la saison des pluies vienne perturber l'événement. Quels auraient été les retards si la compétition avait eu lieu ? Autre exemple. En septembre dernier, à quelques mois du lancement de la compétition, le stade Alassane Ouattara des Bimpe, infrastructure flambant neuve construite à l'occasion de la CAN et inaugurée depuis seulement 2020, accueillait un match amical opposant la Côte d'Ivoire au Mali. Cependant, les deux équipes jouent sous la pluie, et très rapidement, la pelouse s'inonde, le terrain devient impraticable et les deux équipes ne joueront pas la deuxième mi-temps. Le match est annulé. L'annulation fait scandale, et chez certains, on s'inquiète de voir la Côte d'Ivoire ridiculisée aux yeux du monde. Pour Ouattara, cela ne peut pas se passer comme ça, et la CAN devient alors sa priorité. Un remaniement s'impose, et le président ivoirien trouvera en Robert Begré-Mambé l'homme de la situation. On en parle justement avec Florence Richard.
ce qui s'est passé, c'est le président a désigné un nouveau premier ministre qui s'appelle Robert Megrimambé et qui l'a chargé des sports. Et donc, ce nouveau premier ministre avait en charge de vraiment, sa feuille de mission était de que les travaux soient menés à bien dans des plus brefs délais. Et lui a était l'ancien gouverneur du district d'Abidjan et il était connu pour avoir organisé les Jeux de la Francophonie en 2016 et c'était des Jeux qui étaient aussi où il y avait eu des difficultés en termes d'organisation et c'était un ancien ingénieur et lui avait réussi à mener à bien ses travaux et les Jeux de la Francophonie avaient été un succès et donc le président Assane Ouattara l'a désigné pour mettre un coup d'accélérateur pour que ces travaux soient terminés. Ils l'ont été. Alors, les voies de contournement n'étaient pas tout à fait terminées, mais en tout cas, on pouvait circuler. Et globalement, toutes les infrastructures ont été livrées. Les stades étaient prêts. Donc, il n'y a pas eu de difficultés. Malgré ce retard qui avait été accumulé, au final, ça a pu se tenir sans difficulté.
On l'a dit, organiser une compétition internationale, c'est montrer de quoi on est capable. Paris réussit pour Alassane Ouattara qui a organisé une CAN dont on se souviendra pour avoir été la CAN de tous les records. Avec plus de 5000 journalistes accrédités et une diffusion dans 170 pays, la CAN a rassemblé en cumulé près de 2 milliards de spectateurs. Pendant un mois, les yeux du monde ont été rivés sur la Côte d'Ivoire. Pourrait alors se poser la question du sportwashing. Le sportwashing, c'est quoi? C'est une idée d'après laquelle, en organisant de grandes compétitions sportives, les États amélioreraient leur image et leur réputation. Mais attention, c'est une idée dont il faut se méfier. Interviewé par Jeune Afrique à l'occasion de l'édition ivoirienne de la CAN, Pascal Boniface, expert en géopolitique du sport, expliquait que le sportwashing n'existe pas vraiment, car un événement sportif met autant la lumière sur les points positifs que sur les points négatifs d'une nation et de son gouvernement. Prenez par exemple la Coupe du Monde au Qatar. En dépit des moyens mis en place et du spectacle offert, l'image de cette Coupe du Monde restera marquée par la question climatique et la question des droits de l'homme. Pour Ouattara, c'est impensable. La CAN 2023 ne peut être associée au stade inondé, aux problèmes de sécurité, aux routes impraticables. Et dès lors, la CAN devient une priorité pour Alassane Ouattara.
La CAN, je dirais pas jusqu'à dire son obsession, mais en tout cas, véritablement sa priorité. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays où les présidents se mêlent pas forcément de ce genre d'organisation. Alassane Ouattara, il a suivi ça de près. Il voulait absolument que ce soit une CAN réussie, magnifique. Je pense qu'il avait extrêmement conscience derrière des enjeux en termes d'image, en termes de visibilité. C'est-à-dire que je sais plus quel est le nombre exact de personnes qui ont regardé la finale et le nombre de personnes qui étaient devant leur télévision pour la CAN, mais c'est colossal. Donc, en termes d'image, de visibilité, Alassane Ouattara savait qu'il allait avoir cet enjeu-là. Par ailleurs, il est au pouvoir depuis 3 mandats et en termes d'infrastructure, la Côte d'Ivoire, il y a des nouvelles infrastructures qui ont été faites, il y a des nouvelles routes. Enfin, il a voulu aussi qu'on voit que la Côte d'Ivoire s'était développée. Sous son régime et il avait envie que ça se passe bien et véritablement oui il avait cette obsession que ça se déroule bien sur tous les plans d'où les investissements massifs d'où le nouveau premier ministre je crois véritablement voilà qu'il avait conscience de l'impact que cette CAN allait avoir pour la Côte d'Ivoire aux yeux du monde en termes aussi d'investissement pour la suite. Après, ce qui ne veut pas dire, je tiens à souligner, c'est que les investissements importants, ensuite les retombées économiques, pour l'instant, elles apparaissent loin d'être garanties. C'est très difficile à quantifier. Beaucoup, effectivement, ont été investis. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire en termes économiques, quelles seront les retombées pour elle en termes économiques cette fois-ci? Ça, c'est plus difficile à dire. C'est plus difficile à quantifier. Mais en tout cas, en termes de visibilité, en termes de médiatisation, en termes d'image, pour la Côte d'Ivoire et pour le président, c'est certain que les retombées sont importantes.
À un an de la fin de son mandat, le président ivoirien qui n'a pas encore annoncé candidater pour les prochaines élections doit finir en beauté pour faire des années Ouattara un synonyme de réussite pour le pays.
Alors, cette CAN-là a été une réussite selon la grande majorité des Ivoiriens. Il y a quelque chose qui... tout le monde est d'accord pour dire que cette CAN-là a été une réussite. Les autorités voulaient en faire la plus belle de l'histoire, la CAN du siècle. Et tout le monde est à peu près d'accord ici pour dire que ça a été le cas. Et même l'opposition ivoirienne, les présidents de partis d'opposition... On dit que c'était une belle CAN, on saluait le travail des autorités, je pense au nouveau patron du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam, qui a félicité les autorités, au parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. Donc il y a eu véritablement une union sacrée autour de cette CAN. Moi, les Ivoiriens que j'ai croisés depuis mon arrivée, donc depuis le soir de la finale, s'accordent tous à dire que c'était une CAN très bien organisé. D'ailleurs, c'est vrai qu'il faut souligner qu'il n'y a pas eu d'incident sécuritaire, il n'y a pas eu de mouvement de foule. On pouvait redouter, par exemple, les autorités redoutaient des problèmes sécuritaires en termes d'attaques terroristes, par exemple. Enfin, tout avait été envisagé. Et ça s'est vraiment bien passé. Bon, médiatiquement, en termes de visibilité, ça a été un succès. Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que la Côte d'Ivoire avait massivement investi pour cette CAN, et au total, c'est en euros, c'est 1,3 milliard d'euros. Donc c'est colossal. Ça représente quand même 6,5% du budget ivoirien pour 2024. C'est colossal. Certains s'en sont émus. On a entendu l'opposition ou des syndicats dire que c'était faramineux et que c'était trop. Donc, par rapport à cet investissement colossal, la Côte d'Ivoire ne pouvait pas louper cette CAN. C'était, je dirais, presque impensable. Il y a eu beaucoup trop d'investissements pour que l'équipe nationale soit éliminée au premier tour ou qu'au final, il y ait des problèmes sécuritaires. Elle avait fait en sorte que ce soit la plus belle CAN, ça a été le cas. Donc il y a eu une euphorie, mais l'euphorie est descendue, ce qui est bien normal, et on a les Ivoiriens qui en discutent, qui commencent déjà à dire la CAN était magnifique, et puis maintenant il faut baisser le prix de l'électricité, ou maintenant il faut faire des logements sociaux. Donc la vie quotidienne a repris ses droits, ce qui n'empêche pas que c'était une CAN très belle, qui a uni les Ivoiriens, c'est certain. L'opposition dit que c'est un coup de com', que ce n'est pas le cas, mais malgré tout, autour du football, les gens se sont quand même unis pendant un mois. Mais après, l'euphorie redescend, et puis la vie quotidienne reprend, et les Ivoiriens ont des attentes, ce qui est bien légitime.
Pendant un mois, les Ivoiriens ont été réunis derrière un même hymne, un même drapeau et une même équipe. Après la victoire des éléphants, lors de son discours au palais présidentiel, Alassane Ouattara déclarait que « Désormais, on ne dira plus « je suis de telle ethnie ou de telle région », mais « je suis ivoirien ». Nous sommes avant tout ivoiriens. » Une phrase qui résonne quand on sait qu'il y a 15 ans, le pays était morcelé par la guerre civile. En tout cas, si pendant un mois la Côte d'Ivoire a été unie derrière son drapeau, le retour à la réalité se fait très rapidement.
Alors, ce qui est assez intéressant, c'est le discours qu'a prononcé Alassane Ouattara au palais présidentiel quand il a reçu les éléphants. Et il a expliqué à ce moment-là que la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens devaient d'abord se sentir ivoiriens et ne plus dire « je suis de telle ethnie ou telle région, mais je suis ivoirien ». Et il a même dit la phrase exacte, c'est « on ne dira plus « je suis de telle ethnie ou telle région », mais on dira « je suis ivoirien ». Et il a terminé pour dire que la Côte d'Ivoire devait continuer à être en paix, en sécurité, à s'unir. Alors, ce qui est certain, c'est que il y a effectivement une volonté de réconciliation. Il y a une volonté de pouvoir de réconciliation. Ensuite, la CAN a effectivement pendant quelques mois, pendant un mois, les Ivoiriens se sont unis autour de leur équipe nationale. Après, la politique reprend ses droits, c'est-à-dire que ce que je viens de citer, de ce que Alassane Ouattara a dit au palais présidentiel, sur cette union des Ivoiriens sur lesquels il a beaucoup insisté, Si vous parlez avec des personnes de l'opposition, ce que j'ai fait, ils vont vous dire que c'est un coup de com' et que, certes, le football a uni les gens pendant un temps, mais que ça ne va pas perdurer et que les divisions ne vont pas s'arrêter comme ça. Mais moi, ce que je peux dire, c'est quand même que les Ivoiriens, pendant un moment donné, en tout cas, étaient complètement unis, l'ont été après pour le sacre, l'ont été dans les rues d'Abidjan après pour la fête, et ça, c'est une certitude.
En juillet dernier, à Grand Bassam, pas loin d'Abidjan, se réunissait un séminaire de réflexion sur l'exploitation des infrastructures sportives dans l'après-CAN. Ensemble, des experts du monde du football ont pu estimer le coût des entretiens, prévoir une gestion des infrastructures sur le long terme et réfléchir à leurs potentielles exploitations sportives, commerciales et autres. Cette rencontre, initiée par François Amicha, président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, rassemblait aussi et surtout deux grands témoins, le Maroc et le Cameroun. Le premier accueillera la prochaine édition de la compétition et le second avait accueilli la compétition en 2021 mais a été touché par le problème des éléphants blancs. Un éléphant blanc, c'est quoi? C'est une construction de grande envergure qui au final s'avère plus coûteuse qu'elle ne rapporte. Avec ses stades flambant neufs, la Côte d'Ivoire s'expose à ce risque et elle en est consciente. On en parle justement avec Florence Richard.
Bah, ça, c'est une question très importante, c'est une grande question ici, c'est de savoir comment maintenir et faire vivre ces infrastructures sportives. Idriss Diallo, le président de la Fédération internationale de football, a demandé lors de son discours au palais présidentiel lundi la création d'une entité spéciale qui soit dédiée à ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un accompagnement, qu'il y a une structure qui ne gère que ça, c'est-à-dire comment faire vivre ces stades. Évidemment, la Côte d'Ivoire ne va pas accueillir des grands matchs. On peut imaginer que ça va être un peu compliqué, mais par contre, certains espèrent que ça pourrait être un lieu de concert, ça peut être des lieux culturels, ça peut aussi être un endroit de rencontres politiques. C'est ce qui est un petit peu imaginé. Donc c'est vrai que les stades qui sont à Abidjan, ce sera certainement plus simple parce que c'est des stades qui peuvent accueillir facilement effectivement des concerts ou des manifestations. Après, il y a des stades qui sont à l'intérieur du pays. Je pense à la grande ville de Korogo dans le nord ou au stade de San Pedro, pour le coup qui est au sud, mais qui est une ville un peu moins importante. Ça va être un défi pour les autorités de savoir que faire de ces infrastructures et qu'elles ne soient pas perdues. Qu'elle soit pas à l'abandon ou détériorée par la suite.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette CAN est et restera une victoire pour la Côte d'Ivoire et surtout pour les Ivoiriens. Et ce qu'on peut affirmer, c'est que le sport, que ce soit en Afrique, en Occident ou ailleurs, demeure une question éminemment politique. Merci pour avoir écouté ce podcast fait d'une collaboration entre Calisson et l'Observatoire des mondes africains. On remercie également Florence Richard qui a gentiment accepté de participer à ce podcast. Et enfin, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit nous ou l'OMAF. On vous fait plein de bisous. Merci beaucoup et à bientôt.